Appel sur l'actualité 33 1 53 92 64 40. Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. L'antenne vous appartient jusqu'à 11h, heure de Paris, 9h en temps universel avec dans un instant votre rendez-vous quotidien avec la rédaction de Radio France Internationale. C'est l'occasion, vous le savez, de nous poser toutes vos questions afin de mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité et surtout les différents sujets que vous entendez sur l'antenne de RFI. Pour nous contacter, un seul numéro de téléphone, vous composez le 01 53 92 64 40. Si vous nous appelez de l'étranger, vous composez d'abord, bien évidemment, le 33 1 suivi du 53 92 64 40. Et puis dans une trentaine de minutes, en deuxième partie, nous parlerons de la situation politique et sociale en Guinée-Conakry, avec en toile de fond évidemment la grogne des militaires et la colère des syndicats. Les militaires qui cette semaine se sont mutinés pour réclamer notamment le versement de leurs arriérés de soldes. Théoriquement, les soldats mutins auraient dû mettre fin à leur mouvement, car le gouvernement a fini par accepter de répondre à l'essentiel de leurs revendications. Mais cette nuit, des tirs ont été entendus dans la capitale, près du principal camp militaire du pays, et les soldats demandent ce matin la mise à la retraite de tous les officiers généraux. Évidemment, nous allons commenter ces dernières revendications tous ensemble dans une trentaine de minutes, et puis nous parlerons aussi de la position des syndicats qui contestent, vous le savez, la nomination du nouveau Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré. 01 53 92 64 40. Une première question à la rédaction. Noël est avec nous. Bonjour Noël.
Bonjour Juan Gomez, bonjour les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Paris?
Voilà, je suis à Paris.
Et vous avez des questions sur l'Union pour la Méditerranée?
Tout à fait. Alors, je voudrais poser justement deux questions concernant le projet de l'Union pour la Méditerranée, qui est un projet important pour le président Sarkozy. La première question, c'est de savoir quels sont les objectifs réels de cette Union méditerranéenne. Et la deuxième, c'est quelle est la réaction de l'UA, l'Union africaine, et celle effectivement des cinq pays concernés, que sont le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye et l'Égypte.
Mmh. Effectivement, voilà. C'est vrai qu'on a du mal à voir un peu les contours de ce projet qui a tout de même pas mal évolué ces derniers mois. Béatrice Léveillé est avec nous. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Alors, cette union est censée rapprocher, je cite, l'Union européenne des pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose.
Oui, mais on a presque tout dit. Les pays concernés, ils sont de plus en plus nombreux à être concernés, on va le voir, doivent se réunir les 13 et 14 juillet à Paris au sommet, premier sommet de la présidence française de l'Union européenne.
Et ce sera à ce moment-là le lancement officiel de l'Union pour la Méditerranée.
Et c'est à cette occasion aussi qu'ils vont pouvoir confronter vraiment leurs idées et définir un petit peu le contour de ce projet. Alors tout ce qu'on sait, c'est que ce projet est quand même assez institutionnel, qu'il a pris pas mal d'ampleur. L'idée, vous l'avez dit, elle vient de Nicolas Sarkozy, du président français, et de son conseiller Henri Guénaud. Donc Nicolas Sarkozy, avec ses homologues italiens et espagnols, a lancé un appel à Rome. Il a lancé l'initiative à ce moment-là, le 20 décembre 2007. Et depuis, ça a fait beaucoup de bruit, puisqu'au départ, il ne voulait associer que les pays des deux rives de la Méditerranée, ce qui a fâché une partie des pays membres de l'Union européenne, dont l'Allemagne.
Et notamment l'Allemagne, oui, surtout l'Allemagne.
Voilà.
Oui.
Donc à la suite de tout un tas de discussions intra-communautaires, Bruxelles a présenté son propre projet qui, d'après le président de la Commission européenne, reprend l'intégralité de l'esprit de l'initiative lancée par Nicolas Sarkozy, mais en fait qui élargit complètement le projet, puisque alors du coup, il rassemble 44 pays riverains de la Méditerranée et de l'Adriatique, 27 États membres de l'Union européenne et 13 membres et observateurs du processus de Barcelone lancé en 1995 par les Européens.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme le souhaitait Nicolas Sarkozy dans un premier temps, uniquement 5 pays de l'Union européenne et tous ceux qui, évidemment, entourent la Méditerranée, on aura là désormais tous les membres de l'Union européenne.
Plus les 13 observateurs.
Voilà, exactement.
Pour la Bosnie, la Croatie, l'Albanie, etc., qui n'étaient pas prévus au départ. Donc en fait, on se retrouve avec beaucoup de monde autour de la table, ce qui va rendre peut-être les discussions un petit peu plus difficiles. En même temps, cette initiative, qui est quand même très importante, puisqu'elle concerne les chefs d'État de tous ces pays, a déjà suscité beaucoup de réactions, pas mal d'enthousiasme du côté d'un certain nombre de pays du Maghreb, et puis de l'Égypte, et aussi des petites prises de conscience silence, remise en cause. Par exemple, le ministre marocain des Affaires étrangères qui dit tant qu'il n'y aura pas de Maghreb, tant que l'union du Maghreb arabe, qui, comme le processus de Barcelone qui avait été lancé pour réunir les pays riverains de la Méditerranée, l'Union européenne et les pays de la Méditerranée, n'a rien donné depuis une quinzaine d'années. Ouais. L'union du Maghreb arabe, c'est pareil, ça donne rien du tout. Il n'y a pas de volonté politique. Et là, on parle de projet avec l'Union pour la Méditerranée, on parle de projets très concrets, comme par exemple une autoroute qui relierait tous les pays du Maghreb. Mmh. Et ça, c'est quand même très symbolique, surtout quand on sait que la frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée.
Effectivement, en raison de la question du Sahara occidental. Donc, optimisme du côté de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc, tout en regardant et en attendant de voir ce qu'il y aura véritablement dans ce projet.
Voilà, tout le monde va pouvoir jouer une carte, et pas seulement la France et les Européens, mais aussi les pays concernés.
Ouais, Noël, voilà ce qu'on peut répondre, en tout cas concernant les réactions des pays africains qui seraient donc concernés par ce projet. Est-ce que vous êtes tout de même satisfait?
Oui, mais elle n'a pas répondu à propos de l'Union africaine.
L'Union africaine s'est-elle exprimée?
Eh bien, je ne suis pas une spécialiste de l'Afrique. Vous savez qu'on a un service Afrique qui est remarquablement informé dans cette maison, je leur ai pas posé la question, je suis désolée, et à ma connaissance, il n'y a pas de réaction de l'Union africaine.
Voilà, on va se renseigner, Noël, concernant l'Union africaine, si toutefois l'UA, la commission de l'Union africaine s'est exprimée sur ce dossier, on vous répondra, on vous rappellera, même si c'est hors antenne. Merci en tout cas, Noël, bonne journée, merci à Béatrice Léveillé d'être passée dans ce studio. Le standard 01 53 92 64 40, Christian nous appelle de Brazzaville, bonjour Christian.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, vous allez d'une certaine façon vous faire le porte-parole de plusieurs auditeurs qui ont pratiquement posé la même question que vous concernant les relations, il faut le dire, tendues entre la République démocratique du Congo et la Belgique.
Exact, j'ai des questions à ce propos. En avril dernier, le ministre belge des Affaires étrangères a dénoncé la corruption, les privilèges de certaines personnes du pouvoir de Kinshasa. Et tout récemment, sur un plateau de télévision belge, il dit que la Belgique a une obligation morale sur la République démocratique du Congo. Donc ma question, pourquoi le ministre belge des Affaires étrangères se permet-il d'obtenir des propos peu diplomatiques à l'égard de la République démocratique du Congo? Et qu'est-ce qui explique qu'il tienne de tels propos? Ça, c'est la première question.
D'autant qu'il n'en est pas à sa première gaffe diplomatique avec la République démocratique du Congo. On va déjà répondre, si vous le permettez, Christian, à cette première question avec Quentin Dickinson, qui est l'un de nos correspondants à Bruxelles. Bonjour, Quentin.
Bonjour, Juan, et bonjour, Christian, et bonjour, Brazzaville, une ville où j'ai d'excellents souvenirs. Alors, pour répondre à cette première question, effectivement, bon, voyons d'abord ce que le ministre a dit.
Oui, replantons le décor.
Replantons le décor. Le 21 avril dernier, effectivement, dans un discours officiel prononcé à la résidence de l'ambassadeur de Belgique à Kinshasa, il a appelé les autorités congolaises à faire usage de modération lorsqu'il y a recours à la force. Il a rappelé que des progrès sensibles dans le domaine des droits de l'homme étaient encore à faire au Congo. Et il a effectivement, comme Christian vient de le dire, proposé l'aide de la Belgique dans la lutte contre la corruption dans ce pays. Et il a effectivement dit qu'il fallait, je cite, s'attaquer aux privilèges fabuleux de quelques-uns. Alors, 5 jours plus tard, le président Kabila a dit que la Belgique n'avait pas à traiter le Congo comme une colonie. Mais c'est le langage, c'est la réponse habituelle à ce genre de choses. Monsieur de Gucht a répliqué après cela, c'est une partie de ping-pong, si vous voulez. J'ai dit ce que j'avais à dire, nous avons dit ce qui devait être dit, et il a rajouté, ce qui est particulièrement sympathique, ce n'est pas parce qu'un président est élu démocratiquement que le pays est à lui, ce pays appartient à tous les Congolais. Fin de cet épisode-là. Mmh. Et puis, effectivement, il y a quelques jours, un mois plus tard, lors d'une émission de la télévision flamande, de Gucht dit, eh bien, oui, c'est vrai, quand on met 250 à 200 millions d'euros sur la table chaque année dans un pays, on a le droit d'exercer un droit de regard moral sur l'usage qui en est fait.
Il va même plus loin, il dit, on a pas seulement le droit, mais l'obligation morale.
Absolument. Oui. Et le lendemain, Karel de Gucht confirme, c'est la position du gouvernement fédéral belge. Voilà, alors, pour les rétroactes.
Voilà, alors comment expliquer ces moult propos du du ministre de Gourthe.
Bon, écoutez, c'est très simple. D'abord, M. de Gourthe est un Flamand. Et les Flamands, beaucoup plus que les francophones en Belgique, sont peu flexibles sur les droits de l'homme dans les pays en voie de développement et aussi sur l'utilisation qui est faite de fonds publics belges. Et puis, d'un autre côté, il faut dire aussi, ça ressemble un peu, mutatis mutandis, à d'autres relations entre anciennes colonies et anciennes puissances coloniales, en Afrique en particulier, entre la Belgique et le Congo, il y a, comment dire, des rapports intimes d'exaspération mutuelle, et le tout sur fond d'affairisme réciproque. Et ceci n'en est que la dernière illustration.
Christian, est-ce qu'on a répondu à votre première question ?
Oui, bien répondu, merci. La deuxième question donc, quelles sont les conséquences que peut engendrer cette brouille diplomatique causée donc par les propos du ministre belge des Affaires étrangères sur le plan politique et sur le plan économique entre Kinshasa et Bruxelles, et lequel des deux pays pourrait être le grand perdant si rien ne s'arrangeait à court ou à long terme.
En tout cas, il y a une volonté d'arranger, de calmer la tension, on l'a bien vu de part et d'autre, aussi bien à Kinshasa qu'à Bruxelles. Conséquence, la première, Quentin, c'est que la République démocratique du Congo a rappelé son ambassadeur en Belgique.
Oui, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit une déclaration de guerre non plus. Hein. Il retourne régulièrement chez lui, il y a des vols directs. Hein. Bon, il ne faut pas exagérer ce genre de choses. Non, d'abord, Kinshasa va chercher, comme d'habitude, à développer bruyamment et publiquement ses rapports avec d'autres bailleurs de fonds, par exemple la Chine, mais ça fait partie de cette étrange et fatale fuite en avant des rapports de coopération au développement. Ça, il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Ensuite, il n'y aura très probablement aucune conséquence pour les relations entre le Congo, d'une part, et l'Union européenne dans son ensemble, dont la Belgique fait partie, les autres États membres de l'Union européenne étant à peu près sur la même ligne que la Belgique, même si leur style, le plus souvent, est moins rugueux que celui de M. de Gourthe. Et enfin, je pense qu'il n'y aura pas de conséquences et il n'y aura pas de perdants ni de gagnants, ou alors il y a deux perdants dans cette affaire, comme d'habitude. Il y aura, dans les semaines qui viennent, un psychodrame politico-médiatique fortement gonflé et qui se dégonflera dans quelques mois, comme d'habitude.
Ouais. Voilà, Christian, pour les explications de l'un de nos correspondants en Belgique, Quentin Dickinson. Bonne journée à Brazzaville, Christian. Bonne journée à vous, Quentin, à Bruxelles. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir et rebondir à cette actualité sur les relations entre Kinshasa et Bruxelles, on pourra évidemment en parler demain. 01 53 92 64 40. Une autre question, César est avec nous. Bonjour, César.
Bonjour Anne, bonjour tous les auditeurs de la RFI.
Alors vous êtes à Kinshasa en République démocratique du Congo, vous avez des questions, vous souhaitez qu'on revienne vous sur, le dossier de l'arrestation de Jean-Pierre Bemba.
Tout à fait.
Eh bien allez-y.
J'ai une petite question que je voulais avoir des précisions parce que moi je ne comprends pas pourquoi Ange-Félix Patassé n'est pas aussi inquiété par la justice comme Jean-Pierre Bemba, alors que c'est lui qui a invité Jean-Pierre Bemba il y a de cela 5 ans avec ses troupes pour l'aider quand son pouvoir était menacé par Bozizé, actuel président de la République centrafricaine.
Bonjour Karine Franck.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. On rappelle que l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo est poursuivi par la Cour pénale internationale. Il est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité pour des actes qui ont été commis il y a maintenant 5 ans en Centrafrique. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui du président, l'ancien président Ange-Félix Patassé, qui, rappelons-le, à l'époque avait appelé Jean-Pierre Bemba pour qu'il vienne l'aider sur son territoire, puisque Patassé était confronté à ce moment-là à une rébellion. Quid aujourd'hui de l'avenir judiciaire de d'Ange-Félix Patassé?
Eh bien, rien ne dit qu'Ange-Félix Patassé ne sera pas inquiété. Beaucoup d'auditeurs, j'imagine, ont déjà condamné Jean-Pierre Bemba et Ange-Félix Patassé dans leur esprit. Il ne faut pas oublier la présomption d'innocence, c'est important. Cela dit, c'est vrai que la question de la culpabilité du président Patassé se pose dans ce dossier, elle est posée, du côté des victimes comme du côté des défenseurs des droits de l'homme. On pense que le prochain sur la liste devrait être lui, l'ancien président Patassé. Cela n'aurait pas de sens d'impliquer l'un sans impliquer l'autre, affirme une source proche du dossier. C'est en effet Ange-Félix Patassé qui a fait venir les combattants du MLC, mais il ne les a pas seulement fait venir, il leur a demandé de rester, malgré la campagne de viol à caractère systématique et généralisé qui venait d'avoir lieu à Bangui. Tous les médias en ont parlé au moment des faits, à commencer par RFI. Dans le mandat d'arrêt contre Jean-Pierre Bemba, la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale évoque l'existence d'un plan commun entre Jean-Pierre Bemba et Ange-Félix Patassé.
Oui, alors est-ce que Ange-Félix Patassé s'est justement exprimé depuis l'arrestation de Jean-Pierre Bemba ?
Non, pas pour le moment, il ne souhaite pas le faire, on le lui a proposé. À l'époque, il s'était exprimé, Ange-Félix Patassé avait affirmé qu'en tant que chef d'État élu à la loyale, en tant que garant de la légalité constitutionnelle, il se réservait le droit de faire appel à tout pays, à toute force qui voulait bien le soutenir. Le président Patassé a donc demandé à Jean-Pierre Bemba de maintenir ses troupes en Centrafrique pour lancer la reconquête des villes qui étaient tombées dans les mains du rebelle, le général Bozizé. Quelques mois plus tard, alors que Jean-Pierre Bemba était engagé dans le processus de paix à Kinshasa, il a dû retirer ses troupes de Centrafrique après une bataille perdue dans la ville de Bosantédé. C'était la débandade. Le 15 mars 2003, François Bozizé prenait le pouvoir. Ange-Félix Patassé partait en exil au Togo.
Où il est d'ailleurs encore aujourd'hui. Est-ce que la CPI va entendre Ange-Félix Patassé ? Est-ce qu'elle va lancer au moins un mandat d'arrêt contre lui ?
Pour le moment, rien ne le dit, mais rien ne l'exclut non plus. D'ailleurs, le procureur Luis Moreno Ocampo a déjà déclaré que dans ce dossier, Jean-Pierre Bemba ne sera pas la seule personnalité mise en cause. D'autres présumés responsables sont bel et bien dans la ligne de mire de la Cour pénale internationale. Seulement, Juan, la CPI refuse d'en dire davantage et se garde bien de donner des noms.
Ouais, à suivre. Reste avec nous, Karine. Toujours sur ce dossier, Eric nous rejoint. Bonjour, Eric.
Bonjour, Anne.
Vous êtes à Villeneuve-Saint-Georges. Nous vous écoutons.
Oui, bonjour, Anne. Bonjour, Karine.
Oui, bonjour.
Donc, j'avais une toute petite question à poser, au moins deux par là, concernant la situation de Jean-Pierre Bemba.
Allez-y.
Je me demande si l'enquête de la CPI prend-elle en compte les deux interventions des troupes de Jean-Pierre Bemba à Bangui. Pour une petite histoire, en 2001, lors du coup d'État manqué du général Kolingba contre le président Patassé, le président Patassé à l'époque avait fait venir les troupes de Jean-Pierre Bemba à Bangui en mai 2001. Donc ils ont maté, ils ont repoussé les troupes du général Kolingba. Et après, ils sont repartis. Et les mêmes exactions ont été commises.
Donc, votre question exactement, c'est quoi alors, Eric ?
C'est de savoir si
les deux périodes, 2001, 2002 et 2003, sont prises en compte par la Cour pénale internationale, c'est ça ?
Oui, c'est la première question.
Il en reste deux petites minutes, Karine.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu des dizaines de morts à ce moment-là, 50 000 réfugiés, et c'est vrai, François Bozizé était chef d'état-major, Jean-Jacques Demafout, ministre de la Défense en 2001. Alors il faut savoir que la Cour pénale internationale n'est entrée en vigueur qu'en 2002. Donc la CPI n'est pas compétente pour tout ce qui s'est passé en 2001. Elle ne peut donc pas inquiéter le général Bozizé ni personne pour leur éventuelle responsabilité dans ces faits-là. En revanche, selon une source proche du dossier, on ne peut pas exclure que ces événements de 2001 soient évoqués au moment où il faudra comprendre les conditions de l'intervention des rebelles congolais en Centrafrique dans les années 2002-2003. François Bozizé sera alors peut-être éclaboussé par les déclarations des uns ou des autres. Nous avions posé il y a quelques jours la question au porte-parole du gouvernement Cyriaque Gonda. Est-ce que le président Bozizé redoute un grand déballage lors d'un éventuel procès? Cyriaque Gonda a déclaré que le chef de l'État était serein puisque c'est lui qui a renversé le régime Patassé, lui qui a transmis le dossier Bemba à la CPI.
Ah, et puisqu'on parle du général Bozizé, pour ce qui s'est passé 2002-2003, est-ce qu'il y a eu aussi des actions dont ces hommes se sont rendus coupables?
Oui. Les rebelles du général Bozizé ont commis des exactions dans tout le nord du pays qu'ils contrôlaient. Pillages et raquettes généralisées, quelques cas de viol aussi, quelques assassinats, notamment celui d'un prêtre à Bossangoa. D'après les défenseurs des droits de l'homme, ce sont d'ailleurs surtout les Tchadiens qui étaient aux côtés des rebelles centrafricains qui ont commis ces exactions. Alors, est-ce que François Bozizé devra répondre de ses actes devant la Cour pénale? A priori, rien n'est exclu. Au siège de la Cour pénale internationale, on explique bien que le procureur enquête sur tout le monde. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. C'est ce qu'affirme le porte-parole. Si le procureur a choisi de faire arrêter Jean-Pierre Bemba, c'est qu'il estime qu'il a les preuves suffisantes pour faire condamner lui. Et quant aux autres, eh bien, le procureur continue son enquête à charge et à décharge.
À suivre. Merci beaucoup, Karine Franck. Bonne journée à vous, Noël. Merci d'avoir appelé. D'autres questions à la rédaction demain. Vous restez avec nous tout de suite, le journal. Et on revient dans 10 minutes pour notre débat sur la situation en Guinée-Conakry.